Je vais aborder deux sujets ce soir, le destin d'Israël et le rôle de l'Église vis-à-vis d'Israël. Premièrement, Dieu a choisi Israël, notre pasteur l'a bien souligné, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël ? Eh bien, dans la tradition juive, les rabbins disent que c'est parce que Abraham et ses descendants l'ont mérité. Selon une légende rabbinique, le père d'Abraham, Terach, était un fabricant d'idoles. Et Abraham était complètement insensé et en colère contre l'idolâtrie de son père. Mais la Bible nous dit autrement, ce n'était pas parce que le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ont mérité le choix de Dieu, mais c'est simplement par la grâce de Dieu que Dieu a choisi Israël. Deutéronome chapitre 7 au verset 6, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Et pourquoi ? Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il avait voulu tenir le serment qu'il avait fait avec vos pères. Alors, quelle est la raison de l'amour de Dieu, le choix de Dieu ? Eh bien, il n'y a pas de raison. Sauf que Dieu aime Israël et a choisi Israël pour tenir le serment qu'il avait fait au père Abraham, Isaac, Jacob. Vous savez, de temps en temps, en fait une fois par an, je vais prêcher dans des églises à Singapour, des églises de Chinois au Singapour. Alors je parle un peu hébreu, mais pas le chinois. Alors je prêche en anglais parmi des chrétiens, des frères et sœurs chinois. Et je leur dis que si Dieu avait voulu choisir un peuple, parce qu'il voulait choisir le plus grand et le plus fort, peut-être il aurait choisi les Chinois. Mais il a choisi un tout petit peuple, un peuple faible, pour montrer la gloire de Dieu. Et il y a une leçon en cela pour nous en Christ, juifs et non-juifs. Leçon qui nous est rappelée par l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 28, Paul dit ceci, « Dieu a choisi les choses faibles du monde, et on l'a chanté ce soir, pour confondre les fortes, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Une deuxième question, Israël est choisi par Dieu pour combien de temps ? Alors je sais, dans cette église et dans les églises de réveil, vous avez un amour, une connexion, un attachement spécial pour Israël. Mais dans beaucoup d'églises chrétiennes, à travers les siècles, il y a eu non seulement le sentiment, mais l'enseignement que Israël aujourd'hui, depuis la crucifixion et la destruction du temple, est caduque. Que Dieu ne choisit plus Israël et que Israël a été remplacé par l'Église. Mais voici ce que dit l'Éternel par la bouche du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 31. Ainsi parle l'Éternel qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ses lois, c'est-à-dire les lois naturelles, viennent à cesser devant moi, la descendance d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondations de la terre en bas peuvent être sondées, alors je rejetterai toute la descendance d'Israël. Voyez, l'Éternel est en train de dire que si les lois naturelles passaient, eh bien à ce moment-là, Dieu rejetterait Israël. Mais tant qu'on voit le soleil qui brille le jour, la lune, les étoiles, la nuit, on peut être sûr que Dieu n'a pas rejeté Israël. Et l'apôtre Paul reprend le même thème dans l'Épître aux Romains au chapitre 11. Et il s'adresse aux chrétiens à Rome, des chrétiens qui sont en majorité des chrétiens d'origine païenne. Et peut-être ces chrétiens se posent la question, est-ce que Dieu a rejeté son peuple Israël ? Pourquoi cela ? Parce que Paul répond à une question. Et on peut supposer que c'était quelque chose qui travaillait les chrétiens de l'Église à Rome. Et au chapitre 11, au verset 1 et 2, l'apôtre Paul, s'adressant à ces chrétiens, dit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes non, car moi-même, et je peux le dire moi et ma femme Déborah aussi, je suis israélite, alors je ne sais pas de quelle descendance, d'Abraham, oui, Paul était de la tribu de Benjamin, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Et pourtant, à travers les siècles et encore toujours dans certaines églises dites chrétiennes, il y a des enseignements contre les Juifs. Ça a commencé très tôt dans l'histoire de l'Église. Un des pères de l'Église du IIe siècle, qui s'appelait Justin, martyr, parce qu'il est mort pour sa foi, un chrétien qui acceptait le martyr pour sa foi en Christ. Et dans un dialogue avec un juif au milieu du IIe siècle, a déclaré « Le judaïsme traditionnel est condamné parce qu'il a rejeté le Messie. La ruine du temple ne fut que prouver cette condamnation. L'alliance est caduque. Israël a fait son temps. » Et si vous ne connaissez pas le nom de Justin Martyr, vous connaîtrez sûrement et sans doute le nom de saint Augustin, ce grand chrétien du IVe siècle, évêque d'une ville qui s'appelle Hippo, en Afrique du Nord. Et Augustin écrivait « Si les Juifs qui ont refusé de croire au Christ subsistent néanmoins, c'est que Dieu l'a voulu, ils subsistent pour témoigner de la vérité chrétienne. » Le livre saint leur a été confié non pas pour leur propre usage de salut, mais afin qu'ils le portent au service et au bénéfice des chrétiens, comme l'esclave bibliothécaire se fatigue à porter les volumes qui appartiennent à son maître. Et beaucoup plus tard, plus que mille ans plus tard, Martin Luther a écrit un grand livre contre les Juifs, à propos de ce qu'il appelait ce peuple perfide. Et il préconisait que les synagogues soient brûlées, que la pratique du judaïsme soit interdite sous peine de mort. Et il parlait aux princes germaniques de cet affreux fardeau diabolique, les Juifs. Et parfois, on oublie que Luther était à l'origine un moine Augustin. Sa pensée à propos d'Israël était la pensée dans la lignée d'Augustin. Alors c'est vrai qu'Israël, une partie, a rejeté le Messie, mais ce n'est pas pour autant que Dieu rejette Israël. Dieu châtie, mais ne renie jamais. Dieu nous punit, mais il ne nous rejette pas. Dans Jérémie, ce même chapitre, au chapitre 31, au verset 35, je répète, « Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai la race d'Israël. » Et voilà, j'ajoute quelques phrases, « À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. » C'est-à-dire, Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, reconnaissait qu'Israël, par ses actions, souvent rejetait Dieu. Mais Dieu continuait à aimer Israël d'un amour éternel, car l'Éternel est un Dieu de grâce. Il ne nous lâche jamais. Et le fait qu'il retient son amour pour Israël est une rassurance pour nous, en tant que chrétiens, que quel que soit nos éloignements, nos péchés, Dieu est toujours là pour nous recevoir quand nous nous repentons. Le psaume 130 au verset 3, en bas de l'écran, « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Et dans l'épître que Paul écrit à Timothée, « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Le Dieu de grâce que nous connaissons par Jésus-Christ est le Dieu de grâce qui se révèle à Israël dans l'Ancien Testament. Alors Dieu a choisi Israël pour combien de temps ? Un temps éternel. Et à quelle fin ? Troisième point. Et la réponse est tout simple. Il a choisi mon peuple pour être un peuple missionnaire et une nation sainte. Quand Moïse et le peuple sont arrivés au mont Sinaï, avant de monter la montagne, Dieu dit à Moïse, pour le peuple d'Israël, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Alors ce que je trouve un peu insolite, c'est que Dieu a choisi un des tribus, les Lévites, pour avoir une famille d'entre les Lévites, pour être les sacrificateurs. C'était les Kohen, les Kohanim. Quand vous rencontrez monsieur ou madame Kohen, c'est monsieur, madame sacrificateur de la tribu de Lévi, de la famille descendant d'Aaron. Alors moi, je ne sais pas de quelle tribu je suis. Mes parents ne le savaient pas, c'est perdu dans l'histoire. Mais la tradition veut que ma femme, son père, est Lévite, pas Cohen, mais de la tribu de Lévi. Mais en tout cas, ici, Dieu dit par la bouche de Moïse que tout le peuple d'Israël est censé être un royaume de sacrificateurs. Quel était le rôle du sacrificateur ? C'était d'être un médiateur entre l'homme et Dieu, pour être le pont pour amener l'homme à Dieu et révéler Dieu à l'homme. C'était un ministre de réconciliation et Dieu a voulu que tout Israël ait ce ministère. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, nous parle en disant que nous tous, en Christ, nous sommes des ambassadeurs pour lui, ayant le ministère de réconciliation. Dieu se sert de nous pour apporter la vérité divine à un monde qui largement ne le connaît pas. Et l'appel et le destin d'Israël, c'est justement être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Lévitique chapitre 20 au verset 26, « Vous serez pour moi un peuple saint. » Car je suis saint moi-même, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Et la même pensée est reprise dans 1 Pierre. Alors l'épître de 1 Pierre, souvent les commentaires disent c'est écrit aux chrétiens. Mais en fait, verset 1 de chapitre 1 de 1 Pierre, c'est écrit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés en Turquie. » En fait, dans la Bible, ce n'est pas écrit en Turquie, c'est écrit dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Mais l'apôtre Pierre, qui était l'apôtre des Juifs pour les Juifs à Jérusalem, a écrit cette épître aux Juifs messianiques dispersés, étrangers en Turquie. Et voilà qui dit à ses fidèles circoncis, ces juifs messianiques, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » L'apôtre Pierre est en train de rappeler ses premiers juifs chrétiens, juifs messianiques, que leur appel déjà donné par l'Éternel 1500 ans auparavant par la bouche de Moïse, c'était d'être une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Et on peut dire en toute simplicité et toute évidence que le peuple d'Israël aujourd'hui n'a pas encore accompli son destin. Quel est son destin ? Quatrième point, eh bien le destin, premièrement, ce qu'on appelle en hébreu, c'est une teshuvah, une repentance. L'appel de Dieu pour Israël, c'est un appel de se repentir et de se tourner à l'Éternel. Vous savez, votre pasteur a cité le fait qu'il y a cet olivier avec les racines, et vous, les chrétiens d'origine non-juifs, vous êtes greffés, vous n'êtes pas les branches naturelles. Mais nous, les juifs, qui sommes les branches naturelles, l'Éternel, par la bouche de Paul, donne l'avertissement que nous, si on se tourne pas vers l'Éternel, eh bien nous serons arrachés de cet olivier. Et je dirais qu'aujourd'hui, la majorité de mon peuple n'est pas attachée aux racines nourricières qui sont les racines de la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, la foi en Jésus. Et pourtant, dans l'épître de Romains, au chapitre 11, l'apôtre Paul parle d'un avenir glorieux pour Israël. Je dis donc, est-ce pour tomber que ils, c'est-à-dire Israël, les Juifs, ont bronché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela ? C'est par le rejet de Jésus et la crucifixion, la mort de Jésus selon le destin divin pour le Messie, eh bien, le salut est devenu accessible aux païens. Sans la mort de Jésus-Christ, il n'y aura pas eu de pardon de péché. Sans la résurrection du Christ, aucune nouvelle vie par le Saint-Esprit. Par leur chute, dit l'apôtre Paul, le salut est devenu accessible aux païens, aux non-juifs, afin qu'ils soient excités à la jalousie. C'est une des raisons, je suis venu au Seigneur, j'étais excité à la jalousie d'un ami chrétien à l'université en Angleterre. D'ailleurs, cet ami avec qui je jouais au sport, un jour il m'a dit, moi je connais Dieu personnellement. Et ma pensée c'était quel chutzpah, qui veut dire quel culot. De dire je connais Dieu, ça me paraissait insolite. S'il avait dit je crois en Dieu, peut-être, mais je connais Dieu personnellement. Et puis il a ajouté, je suis chrétien depuis un an. Et moi j'ai répondu, et moi je suis juif depuis ma naissance. Qu'est-ce que tu étais pendant 18 ans ? Et c'était l'occasion pour lui d'expliquer, on peut être né juif, mais on peut être chrétien uniquement si on est né de nouveau. Et je suis devenu jaloux de cette foi, cet amour, cette paix que cet ami chrétien avait. Continuons avec ce texte. Si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Ça montre deux choses. Premièrement, qu'il y aura un temps qui est définitivement pas aujourd'hui, on n'est pas arrivé encore aujourd'hui, où les Juifs se convertiront. Et ça montre aussi l'importance pour Israël de se tourner vers le Seigneur. Et si on n'a pas bien compris, comme beaucoup dans l'Église chrétienne, je peux dire, n'ont pas compris que Paul parle des Juifs qui vont se tourner vers Jésus, il se répète pour que le lecteur soit bien sûr de ce qu'il dit. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, par le rejet de Jésus, le salut est venu au monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, parmi les jeunes en Israël, il y a un mouvement, pas un grand mouvement, mais de plus en plus de Juifs se tournent vers le Seigneur. C'est encore tout petit, mais ça se passe. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, j'en viendrai plus tard. Mais voilà que l'apôtre Paul déclare dans ce même chapitre, Romains 11, « Ainsi, à la fin des temps, tout Israël sera sauvé. Quand sera-t-il? On ne le sait pas. » Paul lui-même avait l'espoir de sauver quelques-uns de son peuple à son époque, mais l'assurance qu'un jour il y aura un réveil et Israël se tournera vers leur Messie. Pourquoi ? Parce que, comme le conclut l'apôtre Paul, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne change pas d'avis et heureusement, parce que nous qui sommes en Christ, il ne va pas nous rejeter quand nous péchons, car il est toujours là pour nous recevoir quand on se repent et on se retourne vers lui. Le destin d'Israël n'est pas accompli tant que Israël ne reçoit pas Jésus-Christ. Et Israël, avant tout, c'est chaque homme, femme, enfant juif. Israël habite en Israël, mais la plupart d'Israël habite toujours aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, dans la diaspora. Sur une fratrie de quatre, un de ma fratrie vit en Israël. Comme tous les Juifs, j'ai des cousins en Israël, mais comme beaucoup de Juifs, la plupart de ma famille est dispersée dans les quatre coins du monde. Et maintenant, je vais passer au rôle de l'Église vis-à-vis d'Israël. Et je vais résumer avec trois points très simples. Et ça se résume avec le mot « pape ». Ça ne se résume pas avec la personne du pape, mais avec le mot « pape » qui est un acronyme pour trois mots « prier, aimer et parler ». Prier, aimer, parler. Je parle maintenant du rôle de chacun de nous vis-à-vis les Juifs, vis-à-vis Israël. Premièrement, prier. L'apôtre Paul, qui était l'apôtre aux non-Juifs, le paradoxe de Dieu, qu'il a choisi le plus religieux de tous les apôtres, le Juif le plus érudit de tous les apôtres, le Juif qui avait été éduqué sous Gamaliel, il était ancien pharisien, fils de pharisien, et Dieu choisit l'apôtre Paul pour devenir l'apôtre aux païens. Et Dieu choisit l'apôtre Pierre, qui est un pêcheur du Galilée, qui a peu de connaissances religieuses, pour devenir l'apôtre parmi les Juifs à Jérusalem, le fief des Juifs pieux et religieux. Je prends une certaine réconfort dans cette pensée parce que, comme je vous ai dit, je n'étais pas un vrai juif avant ma conversion. Je n'étais pas un juif pieux qui allait à la synagogue, qui portait une costume noire, un chapeau noir, les peyotes, les tzitzit. J'étais un juif athée. Et ce juif, Dieu a appelé pour être un apôtre, un missionnaire parmi mon peuple, les juifs. Mais Dieu s'en fiche du fait que je n'ai pas la connaissance rabbinique. Et pour vous aussi, Dieu s'en fiche de votre manque de connaissance, parce que ce qui a impressionné le Sanhédrin quand Pierre et les autres apôtres se sont défendus devant eux, ce n'était pas leur connaissance, mais leur assurance. Un jour, un rabbin m'a demandé très gentiment « Qu'est-ce que tu as avec Jésus que nous n'avons pas dans le judaïsme ?» Et j'ai répondu « L'assurance du pardon du péché, l'assurance de la vie éternelle. Nous savons qu'il y a une place que Jésus a préparée auprès du Père au ciel. Mais un juif pieux n'a pas cette assurance. Et chaque année entre juifs, nous nous souhaitons Shana Tova, qui veut dire bonne année, Et les Juifs pieux ajoutent en hébreu « et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie ». L'espérance que vous auriez votre nom inscrit dans le livre de vie. Mais cette assurance n'existe pas. Et chaque année, on répète le même espérance. Mais c'est seulement nous en Christ qui avons l'assurance que le lion du tribu de Juda, c'est lui qui a le pouvoir de détacher le sceau et de inscrire notre nom dans le livre de vie. Alors le premier des responsabilités que nous avons vis-à-vis d'Israël, c'est de prier, mais non seulement prier, c'est prier pour le salut d'Israël. L'apôtre Paul, Romains chapitre 10 au verset 1, « Le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il parle comme s'il n'avait pas d'autre vœu, le vœu de mon cœur. Il parle comme s'il n'avait pas d'autre prière que la prière pour le salut des Juifs, son peuple. Le jour que le Seigneur est venu dans ma vie, parce que je ne peux pas dire « je suis devenu chrétien », je peux dire « Christ est venu dans ma vie ». Je sais que j'ai ouvert mon cœur, j'ai fait appel à Dieu, je lui ai demandé de me montrer la vérité sur Jésus. Et un jour, 2 ans plus tard, Jésus est venu dans ma vie. Et j'ai contacté mon ami chrétien qui m'avait témoigné, je lui ai dit « ça y est, Jésus est venu dans ma vie, j'y crois ». Et il m'a raconté que lui, sa sœur, ses parents, tous chrétiens, une famille chrétienne, se sont fait une alliance entre eux de prier chaque jour pour mon salut qu'ils ont fait pendant 2 ans. Si vous aimez Israël, la première chose c'est prier pour le salut des Juifs. Si vous ne connaissez pas de Juifs, vous connaissez sans doute Alain Afflelou, vous connaissez peut-être Enrico Macia, vous connaissez des noms. Mais ici à Genève, il y a une communauté juive. Priez pour le salut de ce peuple. Et mon travail missionnaire, c'est essentiellement de vous encourager dans ce domaine et de rendre visite à des hommes, des femmes d'Israël, en privé, souvent tête à tête, des personnes qui ne veulent pas que leurs amis, leur famille sachent qu'ils se posent des questions sur leur destin éternel. Deuxième point, pape, prier, aimer. Alors aimer, c'est évident. Nous savons qu'en tant que chrétiens, l'amour du prochain est au centre de notre foi. Jésus dit lui-même, un nouveau commandement, je vous donne. Et je m'arrête là. Quel était le nouveau commandement que Jésus a donné? Aimer les uns les autres. Et comment est-ce qu'il a continué? Comme je vous ai aimé. Vous voyez, aimer les uns les autres, ce n'était pas nouveau. Chaque Shabbat, on récite à la synagogue le chemin. Aimez Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre force, et aimez votre prochain comme vous-même. L'amour du prochain est déjà inscrit dans la Torah. Mais ce que Jésus a ajouté, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il a donné sa vie pour nous. Et trop souvent, à travers l'histoire, le témoignage de l'Église envers les chrétiens, ce n'était pas ce n'était pas un témoignage de sacrifice, ce n'était pas un témoignage de donner sa vie pour les Juifs, mais plutôt de prendre la vie des Juifs sous l'accusation de déicide. Mais voilà que, par exemple, mon père a survécu la guerre grâce, pas des chrétiens, mais des hommes et des femmes en France et en Suisse. Caché 3 ans en France, et puis en 1942, il a passé la frontière, il est resté en Suisse jusqu'à la fin de la guerre. Et moi, 40 ans plus tard, je me suis retrouvé missionnaire parmi les Juifs en France et en Suisse. C'est l'humour de Dieu dans cela. Mais voilà que pour beaucoup de Juifs, c'est résumé par ce magnifique rabbin à Genève qui s'appelle François Garay, qui est toujours le rabbin de la synagogue libérale, le Guil, et qui, interviewé un jour par un journal réformé, Concernant la Shoah, il a écrit « Les bourreaux étaient chrétiens ou le produit de siècles d'antisémitisme chrétien. » Il y a toujours cette pensée parmi nous, mon peuple, que les chrétiens nous ont persécutés. Mais ce qui m'a attiré vers Jésus, ce qui a attiré ma femme complètement séparément, c'était l'amour des chrétiens. Et souvent je dis « Écoutez, si vous avez des amis juifs, ils ne viendront peut-être pas à l'église. Pourquoi pas les inviter ? Mais souvent, ils ne viendront pas. Mais la meilleure façon de témoigner aux juifs, c'est de passer du temps et de manger ensemble. » On a une expression traduite du yiddish qui dit « L'amour est une bonne chose, mais l'amour avec les nouilles est meilleur. » Voilà, je cite Luther dans sa pensée auprès des Juifs. Il a écrit un gros ouvrage, on l'appelle souvent un pamphlet au prince germanique, c'était plus d'une centaine de pages, et il en titrait « Que devrons-nous faire avec les Juifs, cette race maudite et perfide ?» Et sa réponse, j'ai cité une partie, « Leurs synagogues doivent être brûlées, leurs maisons doivent être détruites, etc. etc. » En somme, il conclut « Chers princes et nobles, ayant des juifs dans vos domaines, si ces conseils ne vous conviennent pas, trouvez une meilleure solution pour que vous et nous soyons libérés de cet affreux fardeau diabolique, les juifs. » Ce n'est pas surprenant que les juifs n'ont pas accepté Jésus. Ce n'est pas que nous avons rejeté Jésus, c'est que nous avons rejeté l'Église. Mais la vraie Église, ce n'est pas l'Église officielle, c'est l'Église où Jésus-Christ demeure. Et moi, j'ai tellement envie que mes amis juifs, ma famille juive, rencontrent des chrétiens comme vous qui montreront l'amour de Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas le temps pour continuer de lire tous ces textes, mais je voulais vous montrer quand même ce texte où Paul parle de son amour pour son peuple. Je dis la vérité en Christ, j'ai un grand tristesse, un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Que le Seigneur nous donne un cœur, non seulement pour les Juifs, mais pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que nous ayons un tel fardeau pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'on sera prêt à dire « Je souhaiterais être exclu de la présence de Dieu si ça pouvait apporter le salut à mes amis qui ne connaissent pas Jésus, ma famille qui ne connaît pas Jésus, mes collègues qui ne connaissent pas Jésus. » Que le Seigneur nous donne un tel amour pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qu'on serait prêt à mourir pour eux. Et pour conclure, dans ces trois choses, prier, aimer, parler, notre responsabilité en tant que chrétien, ce n'est pas garder le silence. L'Église en Allemagne se sent coupable de ce qui s'est passé pendant la période nazie. Et un de mes collègues a demandé à un pasteur quelle était la plus grande faute de l'Église au temps des nazis. Et ce pasteur a répondu « Notre silence ». Et aujourd'hui, il y a un nouveau silence qui s'établit vis-à-vis d'Israël, des chrétiens qui aiment Israël, mais ne parlent pas de Jésus. L'apôtre Paul a dit qu'il n'a voulu connaître rien que Christ et Christ crucifié. Et voilà que l'épître aux Romains, chapitre 10, il écrit ceci : « Comment donc invoqueront celui en qui n'ont pas cru ?» Comment voulez-vous que les Juifs invoquent Jésus s'ils ne croient pas ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Je m'arrête. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela ? N'ont pas entendu parler, mais les Juifs, on a tous entendu parler de Jésus. Mais ce que Paul veut dire, c'est entendre parler de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, que Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique comme sacrifice pour notre péché. Et si nous nous repentons de notre péché, il est là pour nous pardonner et pour nous donner la vie éternelle. Mais pour cela, il faut que les Juifs entendent ce message. Et ce message est une bonne nouvelle qui passe par une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes des pécheurs qui ont besoin de se repentir. Et cette nouvelle est le même pour les Juifs que les non-Juifs. Chaque année, à Yom Kippour, on va à la synagogue, on jeûne pendant 24 heures et on confesse nos péchés devant Dieu. Nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous avons besoin de connaître ce Sauveur. Et voilà Paul qui dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Et toujours aujourd'hui, la majorité d'Israéliens, et je peux dire la majorité de Juifs, ne connaissent pas l'évangile de Jésus-Christ. Nos missionnaires en Israël ont engagé une société séculière pour faire un sondage parmi 1000 Israéliens. Et ce sondage, c'était un sondage religieux sur la foi chrétienne. Et une des questions a relevé le fait que 98% d'Israéliens ne savaient pas que la résurrection de Jésus-Christ était le point central de la foi chrétienne. 98% savaient que Christ est mort et savaient que nous avons été accusés de déicide pendant les siècles. Mais ils ne savaient pas que ce même Jésus qui est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Comme l'apôtre, ce juif ancien pharisien, disait lui-même, « Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. » C'est le point central de notre foi, mais Israël ne connaît pas l'histoire. Et Paul continue, « Comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ?» Et ce n'est pas moi le prédicateur, ce n'est pas celui qui se met à la chair et qui prêche. Le prédicateur, c'est chacun de nous qui partage son amour et le message de l'Évangile avec ses voisins, y compris son voisin juif. Ainsi, Paul conclut, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.